VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. La Chine a mené des exercices militaires inédits à Djibouti, où son armée a inauguré cet été sa première base à l'étranger. La télévision chinoise a montré des blindés roulant sur une piste désertique. À Djibouti, des groupes de soldats en tenue de camouflage tirant avec des armes automatiques au milieu d'un paysage lunaire et de gros canons pointés vers l'horizon. La Chine a inauguré début août à Djibouti sa première base à l'étranger. Selon Pékin, elle est notamment destinée à soutenir les opérations de maintien de la paix de l'ONU, d'évacuation de ses ressortissants et d'escorte navale. Le Soudan, retiré de la liste des pays visés par le décret migratoire du président Trump, s'est engagé hier à redoubler d'efforts pour normaliser ses relations avec les États-Unis. Les États-Unis qui doivent décider le 12 octobre s'il faut ou non lever complètement des sanctions prises contre Khartoum en 1997. Mohamed Nagui, rédacteur en chef de Soudan Tribune à Paris, nous situe sur les futurs enjeux.
Le processus de normalisation, c'est justement pour amener Khartoum à produire des changements dans le pays. Par rapport au Darfour, au fait, ce n'est pas le principal volet de la chose, mais le principal volet, c'est d'amener Khartoum à adopter des changements vers un régime démocratique. Quand on parle régime démocratique, c'est-à-dire c'est plein d'autres choses. Le règlement de conflit du Darfour, l'administration américaine en veut autant des factions rebelles qui refusent de signer des accords de paix qu'au gouvernement soudanais, c'est-à-dire toutes les parties au conflit sont récalcitrantes. Washington est en train de mettre la pression sur les deux parties. C'est vrai, ça fait partie du processus de démocratisation, de normalisation, c'est-à-dire aussi de l'autre côté des relations entre les deux pays. Mais ce n'est pas seulement le Darfour. Il y a aussi un autre conflit, il y a aussi les questions des libertés religieuses, il y a les questions de la liberté d'expression, etc., etc.
Mohamed Nagui, rédacteur en chef de Soudan Tribune à Paris. L'opposante rwandaise Diane Rwigara, qui avait tenté de se présenter à la présidentielle, à la dernière présidentielle face à l'homme fort de Kigali, Paul Kagame, a été interrogée lundi par la police, tout comme sa mère et sa sœur après leur arrestation samedi. Madame Rwigara, sa mère et sa sœur avaient déjà été interpellées début septembre avant d'être relâchées après une semaine d'interrogatoire, selon sa famille. La commission électorale indépendante de Guinée a proposé hier de fixer au 4 février 2018, la tenue d'élections locales, une date approuvée par l'opposition qui réclame la tenue de ce scrutin qui n'a plus été organisé depuis 2005 et a été repoussé à de nombreuses reprises. Les élections à cet échelon auraient dû se tenir en février dernier en vertu d'un accord conclu en octobre 2016 dans le cadre du dialogue politique national entre le pouvoir, l'opposition, la société civile et les partenaires internationaux de la Guinée. Mais depuis lors, les discussions sur le calendrier ont à chaque fois achoppé. Avant l'annonce de la CENI, l'opposition avait annoncé son intention de manifester à nouveau demain mercredi pour réclamer ces élections. Au Nigeria, 60 membres présumés d'un mouvement réclamant l'indépendance du Biafra ont comparu hier devant un tribunal. La justice a décidé de les maintenir en détention provisoire. Yakuba Ouedraogo.
Les inculpés, tous désignés comme membres du mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra, IPOB, sont accusés de nombreuses infractions, dont tentatives de meurtre et actes de terrorisme. Selon le porte-parole de la police de l'État d'Abia, Geoffrey Obana, l'affaire a été ajournée au 25 octobre. 7 autres personnes ont également comparu pour les mêmes chefs d'inculpation la semaine dernière à Abia. Les tensions vont croissant dans la région depuis l'arrestation en octobre 2015 du leader du groupe Nnamdi Kanu, détenu jusqu'à sa libération sous caution en avril dernier. Son procès pour trahison et atteinte à la sécurité de l'État va débuter à Abuja en octobre. Le 15 septembre, le gouvernement nigérien a officiellement classé le mouvement indépendantiste comme organisation terroriste. Abuja accuse ce groupe d'attiser des tensions en faisant courir de fausses informations sur un prétendu génocide contre les Igbo.
De violents affrontements liés à un différend territorial en Éthiopie entre deux des principaux groupes ethniques du pays ont fait des centaines de morts et des milliers de déplacés depuis début septembre, a annoncé lundi le gouvernement. Ces affrontements ont opposé des membres des ethnies Oromo et Somali le long de la longue frontière entre leurs régions respectives, Est et Sud-Est. Le président de la région Oromo, Lema Megersa, avait assuré mi-septembre qu'ils avaient donné lieu à des tueries brutales et poussé 50 000 personnes à fuir la zone. Vous écoutez La Voix de l'Amérique. Il est 7h05 à Washington.
Afrique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
En Allemagne, la CDU d'Angela Merkel a certes remporté dimanche les élections législatives, mais c'est affaibli que la chancelière va tenter de former son prochain gouvernement avec environ 32,5% des voix, soit 9 points de moins qu'en 2013. Son parti a subi des pertes. De son côté, l'extrême droite de l'AfD, Alternative pour l'Allemagne, enregistre une percée historique depuis la Seconde Guerre mondiale. Une nouvelle qui inquiète. Thomas Mosch, responsable du service à Ussa de la Deutsche Welle, n'est pas surpris de l'émergence des nationalistes.
Un certain nombre des gens qui ont ces pensées racistes, qui étaient toujours là, mais qui n'ont pas eu la possibilité de s'exprimer dans le système politique parce qu'il n'y avait aucun parti qui pourrait vraiment entrer dans la politique, surtout dans le niveau national. Il y avait ces partis qui étaient représentés sur le niveau régional, ça existait. Mais maintenant, si on prend les études sur les pensées des gens en Allemagne, il y avait toujours un certain pourcentage, entre 15 et 20%, où les études ont dit, voilà, les gens ont une certaine pensée raciste. Donc actuellement, il y a une partie qui représente ça. C'est un signe qu'il y a un changement de l'atmosphère politique, effectivement.
Thomas Mosch, responsable du service à USA de Deutsche Welle en Allemagne. Ici aux États-Unis, la dernière tentative des républicains pour abroger l'Obamacare, le programme d'assurance maladie de M. Obama, semble avoir échoué après que la sénatrice républicaine Susan Collins a annoncé son opposition au dernier plan proposé par ses collègues. Deux autres sénateurs avaient auparavant dit non. Or, les républicains qui contrôlent 52 des 100 sièges à la Chambre haute ne pouvaient perdre que deux votes face à la minorité démocrate qui a décidé de faire bloc contre le projet. Le seul espoir qui leur reste est donc de convaincre assez de contre de la nécessité de changer de position. Et toujours à Washington, la minorité démocrate à la Chambre des représentants appelle à une action immédiate sur le sort de 800 000 immigrés arrivés en bas âge illégalement aux États-Unis en compagnie de leurs parents. Les députés démocrates ont utilisé une manœuvre parlementaire inhabituelle pour forcer les leaders de la majorité républicaine à soumettre au vote une proposition de loi pour résoudre le statut de ces jeunes dreamers. Au début du mois, le président Donald Trump avait demandé au Congrès de trouver une solution définitive après avoir abrogé le programme DACA de son prédécesseur Barack Obama qui offrait à ses immigrés une protection contre l'expulsion. Le vote massif des Kurdes irakiens en faveur de l'indépendance suscite un tollé et un appel au dialogue du secrétaire général de l'ONU. Les précisions, Michel Joseph.
Les résultats du référendum sont attendus mardi soir, mais il est clair que les Kurdes irakiens, dans leur écrasante majorité, se sont prononcés en faveur de l'indépendance. Le Parlement irakien, réuni lundi à Bagdad, en l'absence des élus kurdes, a appelé au déploiement de l'armée dans les zones dont le gouvernement national et la région autonome du Kurdistan se disputent le contrôle. La Turquie et la Syrie, qui ont leur propre minorité kurde, ont dénoncé le référendum. Ankara compte fermer sa frontière terrestre avec cette région et menace par ailleurs de bloquer les exportations de pétrole du Kurdistan irakien à travers son territoire. Le patron de l'ONU a, pour sa part, appelé au dialogue et à des compromis entre le gouvernement irakien et les autorités du Kurdistan. Antonio Guterres se dit préoccupé par les risques de déstabilisation que pose le référendum d'autodétermination des Kurdes irakiens. Dans l'espoir de calmer ses inquiétudes, le président du Kurdistan, Massoud Barzani, a assuré que le référendum ne serait pas automatiquement suivi d'une déclaration d'indépendance, mais plutôt de discussions sérieuses avec Bagdad sur les contentieux entre les deux parties.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunira jeudi pour discuter des violences en Birmanie et aussi de la crise liée au sort de la minorité musulmane Rohingya. C'est ce qu'ont assuré lundi, selon l'AFP, des diplomates qui ont requis l'anonymat. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'adressera au Conseil lors de cette réunion réclamée par sept pays. Il s'agit de la France, des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Égypte, du Kazakhstan, du Sénégal et de la Suède. Fin de ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes. Il vous sera présenté par Henri Francisque. Bon après-midi à tous sur vos stations préférées. À bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.